Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes de retour pour notre émission mensuelle, l'émission du mois de novembre avec Radio Lapourdie et Radio Présence. Nous allons évoquer divers sujets et notamment, bien sûr, l'Assemblée plénière des évêques de France, puisque vous en revenez tout juste, c'était du 4 au 9 novembre. Alors, ça a été un peu particulier puisque ça s'est déroulé sans son président, Monseigneur Pontier. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous donner de ses nouvelles?
Comme vous le savez, Monsieur Pontier, voilà, oui, en effet, Monsieur Pontier a fait un petit accident vasculaire. Et grâce à Dieu, sans séquelles aujourd'hui, mais enfin qui l'a quand même beaucoup fatigué et qui l'a contraint donc à prendre quelques jours de repos et l'empêcher de venir à l'Assemblée plénière de novembre qu'il aurait dû présider. Alors il nous avait adressé un petit courrier qui a été lu par le premier vice-président, M. Pascal Delannoy, qui a donc présidé à sa place, si je puis dire, ses travaux. Mais du coup, il n'y a eu ni discours d'ouverture, ni discours de clôture, parce que les vice-présidents ne sont pas habilités à ce genre d'exercice, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs cette assemblée de se réunir, de se dérouler de manière tout à fait normale, habituelle, et je dirais même toujours plus paisible et plus fraternelle. C'est toujours un petit peu ce qui nous marque. Il y avait quand même pas mal de nouveaux évêques aussi, qui entraient dans l'arène, si je puis dire, pour la première fois, et qui se faisaient aussi cette réflexion. Ben, l'atmosphère est très fraternelle, hein, et je crois que c'est important d'en témoigner. Comme je le dis souvent, au cours de cette assemblée, nous prions ensemble. Nous disons pratiquement tout l'office, sauf l'office des lectures. Nous conseillons la messe à midi moins le quart à la basilique du Rosaire. Et tout ça crée un climat. Et puis, bon, ben je pense que entre nous, il y a évidemment des petits groupes d'affinités de temps en temps, ce qui est normal, hein, de se retrouver entre évêques qui partageons à peu près les mêmes aspirations ou les mêmes orientations pastorales. Mais cependant, on a beaucoup d'occasions de se retrouver dans une très grande diversité. Et je le répète, moi je suis dans l'action de grâce toujours, en revenant de ces assemblées plénières, car il y a vraiment une tonalité extrêmement fraternelle entre nous.
Alors l'Assemblée a été marquée par une journée assez spéciale, puisque c'était une journée de prière pour les actes pédophiles. Elle a été très couverte médiatiquement. Comment s'est déroulée cette journée finalement? Est-ce que c'était que de la prière ou est-ce qu'il y a eu des échanges?
Alors c'était très très calme et très paisible. Vous savez que c'est une réponse à une demande du pape François, hein, qui a demandé à toutes les conférences épiscopales d'organiser une journée de prière et de jeûne ou de pénitence pour les victimes des abus sexuels par des ministres de l'Église. Et donc nous avions pensé que c'était bien que cette démarche soit faite à l'occasion de l'Assemblée plénière, parce que nous sommes tous réunis, et c'est une manière de donner une tonalité encore plus ecclésiale et plus forte encore à cette démarche que nous avons préféré faire ensemble, en y associant à tous les fidèles qui voulaient bien s'associer à cette démarche dans nos diocèses de prière et de jeûne. Oui, ça a été d'abord un temps de prière, le moment le plus intense peut-être, outre la messe, qui était présidée par le cardinal 23, mais l'homélie était donnée par M. Luc Crépy, qui est le président de cette cellule permanente, hein, de veille et de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Et il y a eu ces vêpres qui ont été célébrées dans un grand calme, une grande gravité, dans la chapelle d'adoration des sanctuaires, et qui a duré d'ailleurs près de trois quarts d'heure, parce qu'il y a eu une très longue prière universelle qui associait des paroles de victimes avec des supplications, et qui s'est conclue par un geste un peu symbolique que nous faisons généralement le Vendredi Saint, autour de la croix, et on s'approchait chacun de la croix pour vénérer la croix, parce que la croix, c'est le symbole à la fois de la souffrance des victimes et aussi de la réparation, de la rédemption que le Christ accomplit et à laquelle nous sommes unis par cette journée de jeûne pour ceux qui le pouvaient ou qui le voulaient, en effet, le midi en tout cas, et qui a donné qui a emprunt cette journée de beaucoup de dignité et de gravité. Alors évidemment, il y a eu des échanges aussi entre nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport d'étape qui a été donné par Monsieur Luc Crépy de ce travail accompli par la cellule depuis les dispositions qui ont été prises le 12 avril dernier, vous vous souvenez, par le Conseil permanent, et de voir où ça en était. Il y a eu un point d'étape qui a donc été donné devant la presse en assemblée plénière par Mgr Luc Crépy et Mme Ségolène Mogue, qui est chargée par la conférence épiscopale donc de ce travail de prévention et de lutte contre la pédophilie dans l'Église.
Dans notre diocèse, il y a une cellule qui a été ouverte.
Voilà, alors je pense que dans de nombreux diocèses, quelquefois ça a été mutualisé entre plusieurs diocèses dans certaines provinces, mais on a donc rendu compte aussi de l'ouverture de ces cellules. Nous avons, nous aussi, ouvert une cellule d'aide aux victimes de pédophilie, qui aujourd'hui est ouverte et que l'on peut contacter à travers une adresse mail hein, qui a été largement diffusée, donc qui est composée de 3 personnes. Donc le responsable qui est le docteur Marc Renoux, qui d'ailleurs est le responsable de la pastorale de la santé pour le Pays Basque, et accompagné d'Annie Mazetier, qui se trouve être la bibliothécaire diocésaine, mais qui a fait un master à l'Institut Jean-Paul II sur les questions de sexualité et de fertilité humaine, et Madame Françoise Lemaire, qui est conseillère conjugale du clerc, voilà, et qui peuvent s'appuyer sur l'aide ponctuelle ou l'expertise d'un avocat et d'un psychothérapeute. Cette cellule est ouverte. Dire, et ça a été un petit peu le compte-rendu aussi de cette première étape, hein, par Mgr Luc Crépy et Ségolène Mogue, on ne peut pas dire que les cellules soient prises d'assaut, hein. D'abord parce que c'est toujours difficile de sortir du silence pour les victimes. Il faut beaucoup de temps et un certain courage. Il faut quand même reconnaître que la campagne médiatique qui a eu lieu autour des affaires de Lyon, on s'en souvient l'an dernier, a peut-être aidé un certain nombre de victimes à sortir un peu du silence et de l'anonymat. Et actuellement, si on recense le nombre de demandes qui sont parvenues directement à la conférence des évêques de France et ensuite dispatchées dans les diocèses, ils ont reçu une centaine de demandes, dont l'immense majorité concerne des cas anciens ou très anciens. Et la plupart du temps déjà réglé au niveau de la justice, même s'il y a encore des cas évidemment latents et plus récents, mais qui sont en grande minorité.
Mgr Rayé, un des chantiers que vous avez évoqués lors de cette assemblée plénière, c'est les vocations sacerdotales diocésaines. Alors qu'est-ce qui s'est dit et quelles ont été les interventions qui vous ont marqué à vous ?
Alors, c'était une séquence assez importante, puisqu'il y a eu 3 temps hein, qui ont été consacrés à cette question des vocations sacerdotales qui reste, comme vous savez, une grande souffrance dans nos diocèses, car la pénurie des vocations continue et même de croître dans les diocèses de France, même si il faut évidemment toujours relativiser parce que, comme vous le savez, le nombre de séminaristes augmente à l'échelle du monde. Hein. Mais c'est vrai qu'en Europe et en particulier en France, nous sommes toujours dans la décroissance et nous ne voyons pas beaucoup de remontées. Hein. Donc c'est un grave problème qui nous affecte beaucoup et les évêques ont tellement conscience que le sacerdoce ministériel est absolument nécessaire à la vie et à la mission de l'Église que on s'en effraie tout de même. Alors il y a une première séquence où donc le conseil épiscopal pour la jeunesse et les vocations, donc présidé par Mgr Moutel, a présenté le travail que nous allions faire ensemble, d'abord par l'intermédiaire de forums, bon, qui déclinaient un certain nombre de thèmes relatifs à l'éveil des vocations de prêtres diocésains, car c'est comme ça qui nous préoccupe en premier lieu, et qui a été assorti de 3 témoignages demandés à 3 évêques, donc Mgr Jean-Marc Echen, qui est évêque de Pamiers, Mgr Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, qui lui avait apporté même un PowerPoint et quelques vidéos de séminaristes ou de propédeutes de cette année qui disaient leur motivation pour entrer au séminaire aujourd'hui, et puis Mgr Laurent Ulrich, qui est l'archevêque de Lille. Moi, j'étais frappé surtout par le témoignage de Mgr Ray, qui ne vous étonnera pas puisque je le connais bien et je sais le souci qu'il a d'évoquer sacerdotal dans son diocèse, qui est d'ailleurs assez payant puisqu'il a un séminaire qui comprend une cinquantaine de séminaristes aujourd'hui. Mgr Jean-Marc Echen a parlé de la pénurie comme peut-être une volonté de Dieu. Alors c'est sûr que ça n'a pas été partagé par la plupart des évêques et ça a été lui seul qui en a pris la responsabilité. Moi il me semble que c'est pas tout à fait juste, mais j'en dirai un petit mot plus tard. Et ensuite nous avons eu ces 4 forums quatre forums sur l'évêque et l'appel à la vocation sacerdotale, les familles et les vocations sacerdotales, les figures de prêtres. Bon, moi je suis allé plutôt dans ce forum-là sur les figures de prêtres parce qu'on choisissait chacun son forum. On était à peu près une trentaine d'évêques dans chaque, quasiment. Et j'ai senti surtout le désir de, la souffrance des diocèses et le désir de trouver des voies pour appeler des jeunes à la vocation sacerdotale. Et puis ça a été conclu par un débat en assemblée. Moi, je suis intervenu à ce moment-là, et je suis content de le dire aussi à l'antenne de Radio Lapourdie, parce que ça concerne beaucoup nos diocésains.
Et de Radio Présence.
Et de Radio Présence, bien sûr. Je suis intervenu en disant que cette pénurie des vocations, elle a toujours existé, et elle est même présente dans l'Évangile. Jésus lui-même a été confronté à cette pénurie lorsqu'il dit « la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ». Mais c'est sûr que la constatation de cette pénurie est la cause d'une grande compassion du Christ qui était saisi de pitié précisément devant ces foules qui étaient comme des brebis sans berger. Et quelle est la solution qu'il préconise ? Prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Alors je suis intervenu en disant que on n'avait pas beaucoup parlé de prière pour les vocations, mais c'était tellement évident que je pense que tout le monde y pensait, mais je voulais témoigner d'avoir ouvert dans mon diocèse, pour cette grande cause, deux chapelles d'adoration perpétuelle, qu'aujourd'hui il y a à peu près 600 fidèles qui se relaient 24 heures sur 24 devant le Saint-Sacrement, à raison d'un engagement d'une heure hebdomadaire, ce qui est une vraie générosité, et qui a le bienfait d'induire dans le peuple chrétien le souci des vocations, et qui exprime aussi le besoin que les fidèles ont du prêtre, parce que cette fidélité depuis 7 ans est quand même assez remarquable, et je suis bien placé pour attester de la fécondité de la prière des fidèles alliée à beaucoup d'autres initiatives. Et ce qui était très beau, c'est que, je le dis de manière très 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 modeste bien sûr, mais pendant la pause, un évêque, celui de Quimper pour ne pas le nommer, est venu me voir très ému en me disant « Toi Marc, je voulais intervenir, merci d'être venu là-dessus, parce que j'ai aussi ouvert une chapelle d'adoration perpétuelle à Quimper ou à Brest, je ne sais plus, il y a quelques mois. J'ai donné comme intention de prière qu'on me demandait à la rentrée, prier pour avoir trois propédeutes à la rentrée, et j'ai eu trois propédeutes à la rentrée. Un autre évêque, celui de Saint-Étienne, qui vient de Saint-Étienne, m'a dit « Qu'est-ce que tu penses que j'ouvre une chapelle d'adoration à Saint-Étienne, car j'ai envie de le faire aussi, mais à l'évêché. » Alors j'ai dit, écoute, c'était une porte distincte de l'autre des autres entrées avec une icône, c'est super. Enfin, voilà, donc on se partageait ce genre d'idées. J'ai senti que ça pouvait être aussi une vraie réponse à cette question que nous posons tous.
Merci Monseigneur Hayé. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour continuer à parler donc de ce que vous avez vécu à Lourdes avec tous les évêques de France.
Radio Lapourdie, Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayé, nous vous retrouvons pour parler de cette assemblée plénière des évêques de France dont vous revenez tout juste. Vous avez évoqué beaucoup, beaucoup de sujets, mais on va mettre le focus sur certains, notamment la mission en monde rural et ouvrier, un sujet donc qui vous tient à cœur et qui concerne notre diocèse. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier, de cette réflexion ?
Alors ça, c'est un chantier tout à fait intéressant qui a été mené par Monsieur Philippe Mousset, qui est donc... qui était d'abord évêque de Pamiers et qui est depuis deux ou trois ans, je pense, deux ans maintenant, évêque de Périgueux, donc dans notre province de Bordeaux. Donc on se connaît bien. Puis en plus, on était nommé évêque à peu près en même temps. Et donc on avait fait la semaine des évêques à Rome, là, des nouveaux évêques ensemble. Et donc j'étais très frappé de sa présentation de la mission de l'Église en monde ouvrier et rural. Parce qu'au fond, les initiatives qu'il a présentées dans la séquence qui a précédé aussi des forums où nous étions un peu répartis pour réfléchir à cette question, les uns pour le monde ouvrier, les autres pour le monde rural, il y a deux forums pour le monde ouvrier, deux forums pour le monde rural, et j'étais frappé parce que les initiatives qu'il présentait et qu'il proposait étaient les initiatives que nous avons proposées, nous, comme partage d'expérience au cours de notre... forum communion évangélisation.
Donc à savoir semaine missionnaire.
Alors semaine missionnaire, visite à domicile, mission des prêtres de Périgueux qu'on avait déjà présenté ici par un prêtre de Périgueux justement à Pau là au mois de mai dernier. 10 prêtres diocésains qui se mettent ensemble pour aller faire une mission dans une paroisse pendant 8 jours. Et ensuite, le forum a été l'occasion de partage d'expériences dans les diocèses. Et là, pareil, très frappé de voir des évêques qui sont pas spécialement réputés ou étiquetés nouvelle évangélisation, comme on a tendance à le faire. Moi, ici, on me dit que je veux transposer Toulon à Bayonne. Et donc, je réponds toujours, maintenant, regardez autour de vous, dans les diocèses les plus limitrophes. Et tous les évêques, quels qu'ils soient, quelle que soit leur génération, extrêmement intéressés par cette manière de promouvoir l'évangélisation dans le monde rural d'une manière nouvelle, en s'accordant, souvent le regrettant, que les mouvements d'action catholique qui ont fait florès dans les années 50 jusqu'aux les années 80, aujourd'hui sont essoufflés, et donc on peut le regretter, mais c'est un signe des temps, et disant, il y a des nouvelles missions possibles, et ce qui nous a permis d'ailleurs de réfléchir aussi, en lien avec le forum sur les figures de prêtres, sur une idée qui me tient d'ailleurs très à cœur, qui est que on doit allier aujourd'hui, y compris dans le ministère sacerdotal, l'aspect résident du ministère, c'est-à-dire le lien au territoire, avec des messes d'horaire, la pastorale sacramentelle ordinaire, donc la pastorale ordinaire, à une dimension d'itinérance missionnaire au sein même de nos territoires, pour aller à la recherche de la brebis perdue, comme dit Jésus dans l'Évangile, ou à la rencontre des périphéries, qui, comme son nom l'indique, ne gravitent autour du centre sans y entrer. Et donc j'ai trouvé que c'était une belle ouverture, et je me suis même dit, Philippe Mousset, que je connais bien, d'ailleurs je lui ai demandé, je le ferai volontiers venir dans le diocèse pour animer une journée de travail sur l'évangélisation dans le monde rural. Je pense que c'est une manière, avec une autre voix, de dire des choses qu'on essaye de faire grandir dans notre propre diocèse.
Alors justement, peut-être un mot sur ce que vous allez faire à Saint-Palais le 27 novembre, parce que vous allez lancer un pôle missionnaire. Alors, il y a quand même une inquiétude à l'intérieur du Pays Basque, où toutes ces paroisses, finalement, maintenant, leur regard se tourne vers Saint-Palais, avec un curé. Il n'y a plus de curé au Règle, il n'y a plus de curé à Domezain. Qu'est-ce que vous prévoyez pour toute cette zone d'Amicoussé?
Alors, c'est tout un travail qui a commencé, Nous avons, j'ai proposé au Conseil épiscopal, après que nous ayons bien échangé à la session du mois de juin, donc la session d'été du Conseil épiscopal, une feuille de route, ou un projet de feuille de route pour les pôles missionnaires, que nous avons affiné au Conseil épiscopal, et nous avons communiqué sur ce projet de feuille de route avec les prêtres concernés par ce pôle missionnaire futur autour de Saint-Palais. Donc ils sont venus participer pendant 2 heures au travail du Conseil épiscopal, c'était il y a une semaine, il y a 8 jours, aujourd'hui, et donc c'était un très bon échange, tout en disant qu'on ne fixait pas les choses dans le marbre. Ce que je vais faire le 27 novembre, c'est lancer un projet de construction, parce que cette feuille de route, elle va être largement diffusée au niveau du conseil presbytéral, au niveau des doyens, donc au niveau des doyennés, au niveau des prêtres, de manière à ce qu'elle soit travaillée, qu'elle puisse même être amendée selon les lieux et les temps, et que l'expérimentation en cours avec les prêtres, donc de l'Amicoussé autour de Saint-Palais, aidera, par une réflexion plus proche du terrain, la réflexion de tous. Le pôle missionnaire, au fond, c'est une unité pastorale qui va se construire un peu comme, dans le même esprit un peu dans la même intention qui a présidé à la constitution des nouvelles paroisses il y a un peu plus de 20 ans. C'est-à-dire il y a un centre, il y a un pôle, qui est un pôle de vie civile et religieuse, et autour duquel toutes les autres réalités, qui peuvent être plusieurs paroisses, mais ça pourrait être une seule paroisse, constituant un pôle missionnaire, qui n'ont plus de curé résident, l'ensemble de ces paroisses tournant autour de ce pôle étant confié à une équipe de laïcs, de prêtres, une équipe de prêtres qui essaie de vivre une certaine vie fraternelle, une certaine vie d'équipe, qui a décidé entre eux par une charte qu'ils vont se donner eux-mêmes, et qui, en plus de la pastorale ordinaire, vont avoir le souci, avec évidemment les laïcs, hein, c'est très important, justement d'honorer cette dimension d'itinérance missionnaire au sein de leur secteur. Ce qui nécessitera dans les paroisses qui n'ont plus de curé résident, de prêtre résident, mais qui ont toujours un curé pour autant, qui même s'il se situe au centre du pôle missionnaire, des équipes d'animation paroissiale qui assureront la présence institutionnelle de l'Église dans ces paroisses, qui n'auront plus de curé résident, voyez. Donc c'est un travail qui est en construction et qui allie, comme je vous disais à l'instant, la pastorale ordinaire avec une pastorale explicitement annonciatrice de l'Évangile aux périphéries qui ne se sentent plus toujours concernées par ce qui se passe au centre de nos communautés.
Et ça nécessite aussi alors de repenser la mission prêtre laïque. C'est d'ailleurs un des sujets que vous avez abordé à Lourdes.
Voilà, de continuer notre travail de réflexion entre la co-responsabilité, en tout cas la complémentarité des prêtres et des laïcs dans la vie de l'Église. En rappelant, et c'était un petit peu aussi l'objet de notre travail sur les LEM, c'est-à-dire les laïcs en mission ecclésiale, donc préparé par notre commission à laquelle j'appartiens, la CEMOLEM. Donc on a seulement initié un tout petit peu ce travail qui se déploiera plus tôt à l'Assemblée de mars, qui est de dire les laïcs en mission ecclésiale sont des laïcs qui entrent par appel dans la structure ministérielle de l'Église, aux côtés des prêtres, non pas en substitution des prêtres, mais en complémentarité des prêtres, étant sauve l'idée que la spécificité du laïc, c'est d'abord sa sécularité, c'est-à-dire sa présence dans les réalités temporelles de la famille, du travail, de la vie associative, culturelle, politique, etc., et que leur première mission est d'être aux avant-postes de la mission d'annoncer l'Évangile. Vous voyez comment il faut justement que cette complémentarité, qui nécessite une différence, mais il n'y a pas de complémentarité s'il n'y a pas de différence, puisse s'accomplir dans la mission d'annoncer l'Évangile dans nos territoires.
Dernier sujet qu'on peut évoquer, que vous avez abordé durant cette assemblée plénière, c'est les relations avec l'islam. Alors, je crois que vous avez eu un dialogue avec le cardinal Jean-Louis Torrent.
Voilà. Alors, c'est plutôt les relations avec les musulmans, vous voyez. Et ça a été un des points d'insistance du cardinal Torrent, qui est donc le président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui d'ailleurs avait déjà été signifié par le changement de nom de ce service, comme vous le savez, national. On ne dit plus le service des relations avec l'islam, mais le service des relations avec les musulmans. Depuis un an, on avait acté ça à l'Assemblée plénière de novembre 2015, si je me souviens bien. Donc il a insisté justement là-dessus, en disant que le dialogue interreligieux avec les musulmans, c'était d'abord un dialogue entre personnes, de personne à personne. Et c'est essentiellement un dialogue de la vie. C'est-à-dire, dans les lieux où nous vivons ensemble, nous n'avons pas le choix que d'entrer, de promouvoir ce dialogue, qui n'a pas pour but la conversion, sans doute, des musulmans, mais qui a pour but de favoriser l'annonce de l'Évangile aux musulmans. Et il a beaucoup insisté en disant il faut éviter tout syncrétisme. Il faut surtout que les chrétiens qui participent à ce dialogue soient eux-mêmes absolument clairs dans leur foi, dans leur identité chrétienne, dans leur fierté d'appartenir au christianisme, et dans leur conviction qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus-Christ. En disant, par exemple, vous voyez, Bouddha nous indique une route, mais Jésus est la route. Mahomet prétend avoir une révélation, mais Jésus est la révélation. Vous voyez, donc il y a quand même une différence essentielle, et que, comme il l'a dit à plusieurs reprises, il nous revient de proclamer que Jésus-Christ est le seul sauveur, même si nous reconnaissons évidemment des éléments positifs chez les hommes de bonne volonté qui peuvent appartenir à d'autres cultures et à d'autres religions. Ils sont pour autant dans une situation déficitaire du fait qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Et il nous revient d'offrir à tous l'annonce de l'Évangile. Il a beaucoup insisté là-dessus. Alors, il a évidemment dit que le terrorisme islamiste d'aujourd'hui, donc Daesh, parasite le dialogue avec les musulmans et d'une certaine manière, le rend plus difficile, même s'il est évident que tous les musulmans, tant s'en faut, ne sont pas des terroristes. Mais il a quand même rappelé que la violence fait partie de l'histoire de l'islam, ne serait-ce que parce que Mahomet est un guerrier, qu'il a mené 30 guerres, et que le Coran est truffé, l'a-t-il rappelé devant l'Assemblée, d'appels hein, à la violence, et en disant que le polythéisme, puisqu'il nous considère comme des polythéistes, comme vous le savez, ou des associateurs, comme dit encore Mahomet dans le Coran, eh bien, est plus grave que le meurtre. Alors évidemment, il dit qu'il y a aussi chez beaucoup d'hommes de bonne volonté, y compris d'intellectuels dans l'islam, qui, comme on le sait, n'a pas de magistère, désirent une profonde réforme que nous leur demandons, d'une certaine manière, de leur islam et de leur livre même, et de soumettre le Coran à un travail herméneutique, comme nous l'avons fait nous-mêmes avec nos textes sacrés, je pense en particulier à l'Ancien Testament, accompli heureusement chez nous par l'évangile de Jésus. Et il dit seulement qu'aujourd'hui les chefs religieux sont sensibles à cette idée que nous leur lançons, mais ils sont aujourd'hui ils ne sont pas très pressés dans ce domaine, et ils se sentent davantage appelés à s'opposer par l'identité musulmane à la déliquescence morale de l'Occident, hein, qui pour eux est un profond
amalgame en fait avec la religion chrétienne.
Chrétienne en plus, hein, mais en même temps, voilà. Donc il est manifeste que la laïcité qui cautionne aujourd'hui cette déliquescence morale n'est certainement pas une réponse à la radicalisation de l'islam. Alors donc vous voyez que tout ça est assez intéressant, et il notait en particulier que le Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, qui promeut ce dialogue qui, encore une fois, dont nous n'avons pas le choix dans nos sociétés multiculturelles, pour favoriser les conditions de la paix, hein, à travers des relations interpersonnelles qui essaient de créer des conditions d'amitié et de connaissance mutuelle, il note quand même que le Concile Vatican II n'a à aucun moment parlé de textes sacrés, en parlant des textes de l'islam, et n'a jamais d'ailleurs cité le Coran. Dans son développement sur les relations avec les musulmans.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, au jour où nous enregistrons cette émission, nous venons d'avoir un nouveau président des États-Unis, donc Donald Trump, qui a été élu hier. Finalement, qu'est-ce que vous, en tant qu'évêque, en tant que représentant de l'Église, vous attendez de ce nouveau président ? Alors, on sait qu'il il s'est exprimé sur ses positions pro-life, donc ça, c'est quelque chose qui nous rejoint. Après, il y a aussi des divergences concernant les migrants. Il a d'ailleurs eu des petites altercations avec le pape. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce changement aux États-Unis ?
Moi, je ne sais pas si j'ai à attendre quelque chose. Les États-Unis, ce n'est pas la France et ce n'est pas l'Europe, même si nous savons bien que nous avons des sens en partie liés et que beaucoup s'inquiètent d'un certain isolationnisme que cette élection de Donald Trump comme président des États-Unis pourrait induire, et donc parasiter un peu les relations, en particulier économiques et géopolitiques, de l'Europe, qui est un peu, il faut bien le dire, à la remorque des États-Unis depuis quelques décennies. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est, comme beaucoup d'analystes, je pense, au lendemain de cette élection un peu surprise et qui a un peu pris toutes les l'establishment politico-médiatique de court. C'est pas tellement la personne Trump, que je ne connais pas bien, et qui de fait a été en tout cas présenté au cours de cette campagne par la presse comme un peu un clown, avec une liberté d'expression dépassant tous les codes de courtoisie que nous connaissons parfois même. C'est le phénomène Trump. Et c'est quand même l'étonnement, on a envie de dire un peu aux médias d'une manière générale et souvent aux élites politiques de nos nations occidentales, on a envie de dire bienvenue dans le monde réel. Parce qu'au fond, ce que le Conseil permanent des évêques de France, de la Conférence des évêques de France, a stigmatisé lui-même dans son petit opuscule, hein, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, il y a un écart croissant entre les élites politiques et le peuple, finalement. Parce qu'on sent bien que dans cette élection, contrairement aux pronostics qui voulaient peut-être pas le voir ou qui ne voulaient pas qu'on le voit, et peut-être voulaient induire par leur campagne de presse pro-Hillary Clinton, c'est la réalité d'un peuple exsangue qui souffre beaucoup de l'évolution de la désindustrialisation des États-Unis depuis les années 80-90, de mer croissante, et la financiarisation de l'économie mondiale, qui fait qu'on a conduit à des délocalisations, des fermetures d'usines, et que le petit peuple américain ou les classes moyennes se trouvent dans des situations de précarité croissante. Et on a tellement insisté sur les minorités, il ne s'agit pas d'être anti-immigrationniste, même si lui, il a eu peut-être des paroles, moi je ne engage que lui, mais on était tellement attentif à intégrer les minorités et à adapter la société aux minorités qui viennent, comme on sent que c'est parfois le refrain que l'on entend aussi en Europe et en France, et bien que les Américains eux-mêmes en ont perdu leur identité, mais pas seulement leur identité, en ont perdu leur travail. On a perdu leur sécurité, on a perdu leur raison de vivre dans une identité culturelle qui doit être ouverte aux autres sans doute, mais qui ne doit être pas moins soulignée. Et finalement, à quoi on a assisté avec ces désindustrialisations, je ne sais pas si j'arrive à prononcer le mot, des États-Unis et cette financiarisation croissante de l'économie que nous connaissons aussi chez nous? Eh bien, c'est l'accroissement des grosses fortunes. Mais des grosses fortunes qui ne se sont pas faites nécessairement par le travail, en donnant du travail aux autres, comme Trump qui est un milliardaire, mais pourquoi il est reconnu par la société, les petits? Parce qu'il était un chef d'entreprise qui a gagné son argent en travaillant et en faisant travailler du monde et en donnant du travail à beaucoup. Alors je ne dis pas ensuite, ça me regarde pas, mais les autres, c'est souvent par la politique qui se sont enrichis. Et on vous avait des élites et des grosses fortunes qui, d'une certaine manière, gouvernent et gouvernent les États et peuvent nous gouverner aujourd'hui nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes à la remorque de la grande finance, finalement. Et Hillary Clinton, c'est un peu cet establishment, mais qui s'effondre devant la vérité du suffrage universel. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. De voir qu'il y a une espèce de fracture avec un monde politique qui continuait à son manège d'enrichissement.
Une chose qui m'a interpellée lors du discours d'ouverture de Donald Trump, il a été introduit par son vice-président, il a remercié Dieu. Alors c'est vrai que ça paraît étonnant de parler de Dieu. En France, on n'imaginerait pas ça. Comment est-ce que vous voyez cette laïcité à l'américaine par rapport à la nôtre?
Alors c'est sûr que les Américains sont beaucoup plus religieux que nous. Ça fait partie de leur devise, de la République fédérale, des États-Unis d'Amérique. Mais tout Américain, quasiment, appartient à une confession. C'était vrai, je pense, d'Obama et des autres. Il est presbytérien, lui, donc il est protestant. Mais il a été aussi plébiscité beaucoup par les catholiques. On dit que 52% des catholiques ont voté pour lui. Ce qui est assez étonnant. Donc peut-être qu'en effet, la dimension religieuse n'est peut-être pas absente de sa vie, en tout cas de ses convictions.
Il n'y a pas de séparation de pouvoir entre Dieu et César, alors, aux États-Unis?
Si, il y a sûrement une séparation, mais ça fait partie de la vie des gens. Vous voyez, tout Américain, je pense, fréquente un culte et participe à des actions caritatives qui sont liées à sa confession.
Alors 2017 sera une année électorale pour le coup en France, élection présidentielle, élection législative. Le Conseil permanent des évêques de France a publié un texte auquel vous venez de faire allusion, Retrouver le sens du politique. Alors vous, comment vous avez accueilli ce petit livre?
Alors je note qu'on en a peu parlé finalement au cours de cette assemblée plénière. On a eu une conférence de fond qui a été donné d'ailleurs le quatrième ou cinquième jour par M. Philippe Portier, qui est un professeur de sociologie l'École pratique des hautes études sociales, je crois. Remarquable exposé, un prof tout à fait aguerri, avec une belle clarté et pédagogie dans l'énoncé. Et donc une intervention intitulée « Société et religion dans la France contemporaine ». Et m'est avis qu'il a tellement cité et salué ce texte qu'il pourrait bien être l'inspirateur. D'ailleurs, je crois que le jour même, dans La Croix, il y avait un commentaire de ce texte par lui-même. Je dois dire que ce texte...
Ça veut dire que vous n'avez pas été associé, les autres évêques, à ce texte?
Ah, pas du tout. Nous avons reçu le texte de la commission permanente, comme tout le monde, par voie de presse. Ça nous a peut-être été envoyé...
Ça ne fait pas grincer les dents au niveau des épiscopes?
Alors, c'est vrai qu'on a été un peu étonnés, pour tout vous dire, de l'apparition de ce texte. D'ailleurs, j'avais à côté de moi un évêque qui fait partie de la commune, du conseil permanent, et bon, bah, qui a assumé parce qu'il a signé ce texte, mais ce n'est pas les évêques du conseil permanent, manifestement, qui l'ont écrit. Ils se le sont appropriés, mais il a été écrit par quelqu'un à qui ils avaient passé commande. Il n'a pas soulevé l'enthousiasme des évêques, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque dans ces temps d'actualité que nous avons eus, comme chaque assemblée plénière, au début de l'assemblée, là, pendant toute la matinée, il a été très peu l'objet du débat. Il y a eu quelques voix qui se sont faites entendre, et plutôt pour dire qu'ils étaient surpris d'un texte assez lisse, qui ne se partait pas tellement de nos convictions, exprimées par exemple dans la doctrine sociale de l'Église, qu'on n'avait pas l'impression d'avoir vraiment quelque chose de spécifique à dire aux habitants de France en vue quand même de ces échéances électorales de cette année 2017, et que les outils que nous proposions pour une légitime culture du dialogue ou du débat et de la délibération dans laquelle on invite finalement les habitants à parler entre eux, étaient quand même pas tellement ceux auxquels nous sommes habitués, nous, à partir de l'Évangile et l'enseignement de l'Église, comme le contrat social de Rousseau, le salut de la démocratie. Ceci dit, il faut reconnaître à ce texte qui se situe vraiment dans un riche sociologique, et j'ai retrouvé beaucoup de points de convergence avec cette remarquable intervention de M. Philippe Portier, par un certain nombre de questions posées, mais sans apporter beaucoup d'ébauche de réponses, précisément, mais c'est un principe qui était adopté au départ de ce texte, sans doute, dans l'intention de ce texte, un certain nombre de bonnes questions sont posées, comme la défiance des Français par rapport aux hommes politiques. Comme vous le savez, selon les enquêtes d'opinion, 85% des Français se défient ou se méfient, ou n'ont pas confiance en tout cas, ni dans les médias, ni dans les partis politiques. On voit d'ailleurs cette multiplicité de candidats à la primaire de la droite, ou comme on va le voir de la gauche, on voit bien que là, il y a une vraie crise du personnel politique, même s'il y a encore des gens effectivement très dévoués et très généreux à la chose publique. Il ne faut jamais complètement ni diaboliser, ni généraliser ce genre d'analyse. On pose des questions sur la multiculturalité, sur la présence de l'islam, qui est quand même dans tous les esprits, avec évidemment les outrances du radicalisme musulman tel qu'il s'exprime dans des... chez les terroristes comme Daesh. Je ne peux pas dire que ce texte ait soulevé les évêques d'enthousiasme, et on est assez sceptique avec ce genre de discours.
Vous ne le recommandez pas aux fidèles, alors?
C'est pas que je ne recommande pas, si, je les invite à le lire, bien sûr, ils peuvent tout à fait le lire, au contraire. Ils trouveront d'ailleurs de très bonnes choses, mais je ne sais pas si on n'aurait pas pu parler, comme d'ailleurs dans le débat qui a suivi, l'intervention de M. Philippe Portier, qui est assez intéressante, où il nous a dit, mais bien entendu que dans le débat, il faut absolument que vous parliez à partir de vos enracinements. Et moi, je notais une notion, évidemment, qui n'est pas très audible. J'ai même pas eu besoin d'intervenir, parce que d'autres sont intervenus avant moi, dans le débat. Mais une notion qui n'est pas forcément très audible dans la France contemporaine, et ça, j'en ai tout à fait conscience, et le fait qu'il a été... soigneusement évité par ce texte, c'est la notion de loi naturelle et la notion de droit naturel. Est-ce que la notion de loi naturelle, qui est la pierre angulaire de l'enseignement social de l'Église, doit être seulement reléguée à titre d'héritage dans le passé et faire place à autre chose pour entrer dans un monde où, comme l'a dit M. Philippe Portier, on célèbre l'avènement de la subjectivité, dans tous les domaines de la vie sociale, à commencer par la famille, ou est-ce que cette notion est tellement inscrite, selon notre conviction, dans le cœur de l'homme et dans la conscience de tout homme, même s'il est enfoui dans un paradigme culturel qui peut l'étouffer, et qu'il n'est pas bien que nous, aujourd'hui, on réfléchisse à la manière dont, ou à la pédagogie, qui nous permettrait en nous invitant, nous aussi, à partir de ce que nous sommes dans ce débat et cette délibération qui commande la vie démocratique ou politique en France, eh bien, une pédagogie pour permettre aux gens de redécouvrir ces grandes arêtes de la loi naturelle inscrites dans le cœur de l'homme.
Nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlerons de la vidéo Cézanne.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous terminons cette émission avec vous, Monseigneur Hayet, pour parler de vidéo Cézanne. Alors, récemment, vous avez publié un communiqué de mise au point. Il s'agit du Carmel de Simacourbe, qui a été un petit peu secoué par la presse récemment, avec une plainte d'une famille qui a été à l'encontre de la mère prieure. Vous avez souhaité faire une mise au point par rapport à ce qui était dit dans la presse. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où ça en est pour cette mère prieure?
Alors moi j'ai voulu surtout faire une note, pour assez factuelle d'ailleurs, pour dire un peu l'historique de ce Carmel et aussi l'histoire, même si elle était aussi un peu mouvementée, de cette prieure fondatrice de ce Carmel. J'ai voulu surtout préciser que, contrairement à ce que dit la presse, elle n'a jamais été relevée de ses vœux après avoir quitté son Carmel de Belgique, là où elle était mise en difficulté, c'est vrai, à ce moment-là. Et là, il ne m'appartient pas de juger de cette enquête qui a été faite il y a quasiment 30 ans maintenant, hein, par l'officialité de Namur. Mais toujours est-il que cette enquête a été portée à la connaissance de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés, et que si elle a elle-même, sur le conseil de l'évêque qui l'avait accueilli à l'époque, qui était Monsieur Lagrange, évêque de Gap, fait une demande de sortie de l'ordre, donc qui a conduit à ce qu'elle soit relevée de ses vœux, c'était précisément parce qu'on lui proposait de reconstituer une association de fidèles en vue de devenir Carmel diocésain dans le futur. Hein, c'était de l'intention de l'évêque qui l'avait accueilli sur le conseil de la congrégation pour les instituts consacrés. Mais il faut savoir que elle était rétablie dans ses vœux, ce qui n'est pas dit dans la presse, par la constitution, la congrégation pour les instituts consacrés en 2008, hein, en 2007, je pense. Et que si moi j'ai pu ouvrir un Carmel, vous imaginez bien que c'est d'abord parce que la demande a été faite en bonne et due forme par un Carmel légitime en France auquel ils étaient rattachés, hein, par la congrégation pour les instituts consacrés, et parce que j'ai reçu un décret explicite à ce moment-là, en 2008, hein, ou en 2009, de la Congrégation pour les études de vie consacrée à Rome, me donnant tout pouvoir de fonder ce Carmel. Bon, que j'ai accompagné selon les moyens ordinaires de la vigilance épiscopale, mais cependant, nul n'est à l'abri de
Mais vous connaissiez tout son parcours auparavant, avant qu'elle arrive ici?
Bien sûr, et connu par Rome, qui l'avait réhabilité. Donc ça veut bien dire que moi je me suis fié à ce que Rome disait. Et puis je la connaissais un petit peu, parce qu'elle était dans le diocèse de Gap, moi j'étais dans la même province ecclésiastique, donc on connaissait ce Carmel. Et alors ce qui se passe là en ce moment, c'est une famille que je connais, qui m'a interpellé déjà à plusieurs reprises, auxquelles j'ai répondu en prenant les mesures que je devais prendre pour vérifier ce qu'il me disait. C'est une famille qui, semble-t-il, n'a jamais admis la vocation de leur fille, encore moins de rentrer dans ce Carmel, en étant impressionné par ce qu'on disait dans la presse à l'époque sur ce Carmel, qui considère que la mère prieure sépare les carmélites de leur famille. Comme on le disait entre évêques à propos de beaucoup d'autres réalités de ce type dans l'Église, la vie contemplative, ça a toujours été la fuite du monde et d'entrer dans une vie avec Dieu, dans une communauté. Donc il y a forcément une rupture avec le monde et nécessairement avec sa famille.
Il y a une deuxième famille qui la soutient, non? Elles sont plus ou moins deux?
Il y a une famille qui a porté plainte. La presse dit qu'il y a une famille, je crois qu'il y a le frère d'une autre. Carmélite qui essaie de dire la même chose, hein, c'est possible, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'autres familles qui m'ont donné des témoignages spontanés, qui ne se reconnaissent pas du tout ce traitement fait à leur fille tel qu'il est exprimé par ces plaintes, et d'autre part, moi j'ai voulu dire dans cette note que non seulement j'ai fait des visites canoniques en intégrant ces soupçons qui m'avait été porté à ma connaissance et porté à la connaissance de Rome, qui m'avait demandé d'y voir de mon avis. Donc j'avais fait une troisième visite canonique en janvier dernier avec une tierce personne. Mais pour rendre plus objectif mon discernement, j'ai donc demandé à Rome de faire une visite apostolique. Donc j'ai dit, moi voilà ce que je peux dire. Faites-vous-même une visite, comme ça j'avais le regard complètement extérieur à moi, si vous voulez. Hein. Et donc cette visite apostolique a eu lieu début octobre, bien avant le déferlement, enfin un petit peu avant le déferlement médiatique là, et la connaissance que nous avons eue à ce moment-là d'une plainte déposée au parquet de Pau par cette famille, et le Vittore Possui qui a été envoyé par Rome, nommé par Rome, par décret, hein, que j'ai reçu aussi en juillet 2016. Il a accompli cette visite pendant 8 jours, je l'ai vu pendant 2 heures, j'attends maintenant le résultat de la visite, mais ce que je peux dire, j'ose le dire, même si je ne l'ai pas écrit, c'est qu'il n'a pas lui-même constaté d'emprise psychologique sur les sœurs. Donc c'est pour moi rassurant, même s'il y a forcément des ajustements, comme dans toute communauté nouvellement édifiée, et vous savez, je fais des visites canoniques dans toutes les communautés religieuses de mon diocèse. Je ne suis pas. Il n'y a rien de plus, ou de moins que je vois dans les autres communautés.
Vous précisez dans votre communiqué qu'on avait, le diocèse ne verse aucune contribution financière.
Ça, c'est très important de le préciser. Oui.
Et est-ce que vous priez Saint-Joseph, ce qu'a répondu cette religieuse dans la presse, qu'il suffisait de prier Saint-Joseph pour avoir de l'argent pour construire un...
Non, ça veut dire que il y a toujours eu une grande tradition dans l'Église, et en particulier chez les Carmels, car vous savez que le premier Carmel réformé par Sainte Thérèse d'Avila a été confié à Saint-Joseph, hein, sans rosée, à Avila, alors qu'elle était elle. Parce que les Carmélites sont comme comme les Dominicains et les Franciscains, des ordres mendiants. Ça veut dire qu'ils sont livrés à la générosité des fidèles et donc à la providence de Dieu. Et cette manière de prier Saint-Joseph, qui est une grande tradition dans les communautés religieuses, et en particulier chez les Carmels, parce que Saint-Joseph, c'est celui qui pourvoit à la vie de la Sainte Famille, hein, par son travail, et qui représente Dieu qui pourvoit aussi à notre vie, eh bien c'est une manière d'exprimer sa confiance en la providence. Et de fait, la providence répond souvent aux besoins matériels des communautés religieuses. Alors pour la petite histoire, et c'est pas le cas du Carmel de Simacourbe, mais je me rappelle d'une communauté bénédictine qui disait, ben voilà, on prie Saint-Joseph parce qu'on a vraiment des besoins, et là on est un peu exsangue, etc. Et quand Saint-Joseph ne répondait pas, il tournait, elle tournait la statue de Saint-Joseph jusqu'à ce qu'il réponde.
Oh, Monseigneur Hayé, le 13 novembre, vous avez refermé la porte de la Miséricorde de la cathédrale de Bayonne. Elle sera définitivement refermée aussi à Rome le 20 novembre. Alors, quel bilan vous faites de cette année de la Miséricorde ?
Alors d'abord, j'espère bien qu'on ne va pas fermer la porte de la Miséricorde. Hein, comme vous le savez, si à Rome, on pourra fermer matériellement la porte, parce que c'est une porte sainte qui n'est ouverte que pour les jubilés, chez nous, la porte de la Miséricorde était la porte d'entrée de la cathédrale, donc il n'est pas question de la fermer, et au contraire de garder l'église ouverte. Mais j'ai envie de dire, si nous allons fermer l'année de la Miséricorde, en tout cas la conclure, parce que c'est une année qui a été donnée, donc il faut bien la conclure un jour, et le pape avait donné comme terme pour cette année le dimanche du Christ roi, à Rome, 20 novembre, précédé une semaine avant par la clôture de l'année sainte dans les diocèses. Comme l'avait dit Saint Jean-Paul II, au lendemain de la fermeture de la porte sainte du grand jubilé de l'an 2000, la porte sainte est fermée, mais le cœur du Christ reste ouvert pour répandre sa grâce sur le monde entier. Et donc je crois que c'est ça la grande leçon de cette année de la Miséricorde. Non seulement nous avons fait une expérience renouvelée grâce à cette initiative inspirée du Saint-Père de la Miséricorde de Dieu dans nos vies, mais non seulement nous allons continuer à user et abuser des moyens de la Miséricorde, hein, en se disant bien que c'est le cœur de la vie chrétienne, la Miséricorde, mais nous allons surtout être encore plus sensibles à la nécessité de répandre cette Miséricorde autour de nous, et d'être des instruments et des ouvriers, des missionnaires de la Miséricorde divine dans notre vie. Donc je pense, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redirai sans doute, le jour de la clôture de l'année sainte, extraordinaire de la Miséricorde, eh bien maintenant nous allons franchir la porte dans l'autre sens, et nous allons aller à la rencontre du monde, à la rencontre de tous ceux que nous côtoyons dans le monde, pour être encore plus les porte-paroles et les instruments de cette Miséricorde auprès de tous ceux qui ont tant besoin, dans leurs blessures, dans leurs inquiétudes, dans leurs incertitudes, de cette Miséricorde du Seigneur.
Nous allons clore cette émission avec vous, Monseigneur Ayer. Un petit mot juste sur les dernières visites pastorales, puisque je crois qu'il vous en reste encore quelques-unes pour cette année.
Voilà, j'ai encore 5 paroisses, je crois, à visiter, vous voyez, sur 69. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc il faut absolument que je termine ces visites pastorales cette année. Et puis je vais en même temps, parallèlement, commencer la visite pastorale des établissements catholiques d'enseignement. Donc nous sommes en train de préparer avec le délégué diocésain, le directeur diocésain, qui est le délégué épiscopal, enseignement catholique, Jean-Marc Apaule, et puis le conseil de tutelle. Et je vais rencontrer aussi les responsables de réseau d'enseignement catholique très prochainement pour voir comment mettre en place de manière féconde ces visites pastorales de nos établissements catholiques d'enseignement.
Merci Monseigneur Ayer, merci Violaine Ricourt-Dumas, merci à tous les auditeurs de Radio Présence et de Radio Lapourdi.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
Monseigneur Marc Ayer, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.